Chapitre 23. Lorsque Jean-Noël retrouva Odile, il ne lui demanda même pas ce qu'elle avait de si pressé à lui annoncer. Cette indifférence ne la froissa pas. Ils venaient de faire quelques pas ensemble lorsqu'elle lui dit fièrement « J'ai une nouvelle à vous annoncer qui vous fera plaisir. La lettre est partie. » Jean-Noël feignit de s'en réjouir. La veille, en quittant Mademoiselle Wurzel, il avait songé à la scène qui s'était déroulée chez Maître Herbst et il s'était demandé pourquoi Odile, qui, jusqu'alors, avait paru tellement impatiente qu'il divorça, s'était brusquement dérobée. La raison n'avait pas tardé à lui apparaître. Odile craignait de s'engager avant d'avoir, sinon la certitude, du moins l'assurance que sa famille ne s'opposerait pas à son mariage. J'ai encore autre chose à vous dire, continua-t-elle. J'ai parlé de vous à mon père. Ah, je m'en doutais. Pourquoi ? Jean-Noël fit un geste qui signifiait qu'il ne le savait pas. Et qu'avez-vous dit à votre père ? Vous avez l'air de trouver cela drôle. Rien n'est pourtant plus naturel. Nous ne pouvons pas prendre des engagements sans savoir si nous pourrons les tenir. Je suis libre, c'est entendu, mais cela ne doit pas nous rendre imprudents. Jean-Noël fit à ce moment une réflexion étrange. Ce n'était que parce qu'elle pensait à elle qu'Odile tenait tant à ce qu'il divorçât. En supposant que leur mariage fût impossible, il lui serait indifférent que celui qu'elle prétendait aimer demeurât avec ses soucis. Bien qu'il se rendît compte que c'était humain, il ne put s'empêcher de dire « Au fond, nous dépendons de votre famille. » « Pas du tout. Vous ne comprenez donc pas que notre intérêt est d'être en bons termes avec elle, ce qui ne veut pas dire, si c'est impossible, que nous ne nous marierons pas. » « Ce qu'il faut, Jean-Noël, c'est que vous soyez très accommodant. Vous allez me le prouver tout de suite. Vous allez m'accompagner à la maison. » « J'y ai été il y a 2 jours. Je n'ai aucune raison d'y retourner. » « Je vous prie de le faire pour moi. » Jean-Noël ne céda pas. Odile lui demanda pourquoi il refusait une chose aussi naturelle. Il ne voulut pas répondre. Mademoiselle Wurzel s'imaginait donc qu'elle lui faisait un honneur en consentant à devenir sa femme, alors que c'était le contraire, que c'était lui qui lui en faisait un en consentant à devenir son mari. Comment ne s'apercevait-elle pas qu'en l'obligeant à se déclarer prématurément, elle le mettait dans une situation fausse, celle de se présenter en se prétendant sincèrement épris alors qu'il n'était pas divorcé. N'eût-ce été qu'à cause de son père, elle eût dû faire tout ce qu'elle pouvait pour éviter une entrevue semblable. « Non, dit-il, je n'irai pas, car je n'ai aucune raison d'y aller. » Odile tâcha de persuader son interlocuteur que ce qu'elle lui demandait n'était qu'une amabilité de sa part. M. Wurzel désirait beaucoup le revoir. Il avait été si conciliant qu'elle voulait lui donner satisfaction sur ce point. Elle ajouta qu'elle comprenait que cela gênait Jean-Noël. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Ensuite, tous deux seraient tranquilles. Mais tous ces arguments ne firent pas changer Jean-Noël d'avis. « Puisque vous êtes si mal disposé aujourd'hui, dit-elle avec calme, j'aime mieux vous quitter. » Sans ajouter un mot, elle s'éloigna. C'était la première fois qu'elle s'abandonnait à un mouvement d'humeur. Celui-ci ne pouvant plus avoir, selon elle, de conséquences fâcheuses, Jean-Noël étant déjà trop engagé pour reculer. En effet, elle avait à peine fait quelques pas qu'il la rattrapa, la prit par le bras. « Je vous accompagne, dit-il. » Elle s'arrêta, le regardant en souriant. « Vous êtes têtu, dit-elle avec cette fierté que ressentent les jeunes filles à parler déjà comme une épouse à celui qu'elles aiment. Il était 7 heures quand ils arrivèrent boulevard du Montparnasse. « Mon père doit être dans son cabinet de travail, » dit Odile en y entraînant Jean-Noël. À la vue du jeune homme, M. Wurzel se leva, puis il s'avança vers lui, lui tendit la main, de telle façon que Jean-Noël sentit qu'il n'était plus reçu comme avant, c'est-à-dire sans frais, aimablement et librement, mais un peu comme un étranger, pour qu'il comprît sans doute que l'amitié de jadis ne serait d'aucun poids dans les négociations qui allaient suivre. « Je suis content de vous voir, asseyez-vous, » dit M. Wurzel en déplaçant un lourd fauteuil. sans empêcher ce vieil homme de se donner cette peine, sans le remercier même, Jean-Noël s'assit, croisa les jambes avec sans gêne, afin de montrer qu'il méprisait l'obséquiosité. « Odile, continua M. Vurzel, je voudrais que tu nous laisses un instant. » Elle se retira, non sans jeter un regard d'intelligence sur Jean-Noël, regard que celui-ci fit semblant de ne pas remarquer. « Ma fille m'a appris hier que vous étiez désireux de l'épouser. » Jean-Noël baissa la tête en signe d'acquiescement, bien qu'il pensât que ce n'était pas exact, que c'était plutôt Odile qui était désireuse de l'épouser, lui. « C'est en effet la vérité. Je tiens à vous dire tout de suite qu'à première vue, je ne fais aucune objection à ce mariage. Vous êtes presque un ami de notre famille. Nous avons toujours eu beaucoup de sympathie pour vous. » Au lieu de toucher Jean-Noël, ses paroles lui déplurent. Elles n'étaient pas sincères. Des objections ne tarderaient pas à leur succéder. Il allait donc être obligé de les réfuter pour jouer son rôle jusqu'au bout. Cette perspective lui donnait envie de partir. Sa posture d'étranger, reçue comme un ami qu'il faut ménager, n'était-elle pas d'autant plus ridicule que s'il avait pu parler, en un instant, il eût montré que, contrairement à ce que croyait M. Vurzel, son avenir et son bonheur ne dépendaient que de lui, Jean-Noël. Mais, continua M. Vurzel, et je m'empresse de vous dire que ce n'est pas un reproche que je vous fais, les événements un peu exceptionnels au milieu desquels vous avez vécu, certaines raisons de famille que je n'ai pas à connaître mais que je devine, font que vous vous trouvez aujourd'hui sans la moindre fortune. Comme l'idée que vous épouseriez un jour ma fille ne m'était jamais venue, je vous dirai que je n'avais vu en vous jusqu'à présent qu'un ami de mes enfants et que je ne m'étais jamais demandé ce que vous comptiez faire dans la vie. Ma fille m'a appris que vous aviez commencé votre droit, que vous étiez clerc chez un notaire. C'est exact. J'ai dans l'idée que cette occupation n'est pas d'un très grand rapport. Elle doit juste vous permettre de vivre. Mais si vous vous mariez, comment ferez-vous pour faire face à toutes les dépenses d'un ménage ? Jean-Noël était de plus en plus irrité. Il déclara, sans grand enthousiasme, que son désir était de terminer ses études, d'exercer ensuite. Sans aller jusqu'à traiter de haut les Vurzel, il s'était toujours conduit en jeune homme pour qui les préoccupations matérielles n'existent pas, dont la famille assurera l'avenir. Aussi, que M. Vurzel put aujourd'hui lui poser de pareilles questions, l'humiliait profondément. Il aurait aimé à répondre qu'il avait été élevé à ne jamais parler d'argent, mais il ne le pouvait. « Vous n'ignorez cependant pas, continua M. Vurzel, que tous ceux qui exercent des professions libérales sont, en ce moment, dans une situation embarrassante. Nous sommes à une époque où il faut travailler, et durement. Je n'ai qu'à regarder autour de moi pour le constater. Mon fils aîné a beaucoup d'amis dans les milieux intellectuels. L'un d'eux, avocat, Maître Herz, vous avez peut-être entendu parler de lui, me disait justement qu'il n'y avait plus d'affaires nouvelles, que le palais ne vivait, pour employer l'expression dont il s'est servi, que sur le vieux stock. Je ne partage pas votre opinion. Je crois au contraire que la profession d'avocat est une de celles qui auront toujours la raison d'être, répondit Jean-Noël sans penser à ce qu'il disait, troublé qu'il était encore d'avoir entendu le nom de Maître Herz dans la bouche de M. Vurzel. Celui-ci ne put s'empêcher de trouver étrange que Jean-Noël prit la défense d'une profession qu'il n'exerçait pas encore et que, d'ailleurs, il ne semblait pas tellement pressé d'exercer. « Je vous dirai, continua M. Vurzel, que mon désir, si j'avais un gendre, serait qu'il devint pour moi un fils et qu'il fût capable, comme mes autres enfants, de prendre un jour ma place. Je ne serai pas éternellement là. Mes affaires, comme vous le savez, marchent beaucoup moins bien. » L'argent perd chaque jour un peu de sa valeur. Où allons-nous? Je n'en sais rien. Que deviendra la fortune que nous avons péniblement amassée? Je l'ignore. Dans l'avenir, ce sera surtout sur notre travail que nous devrons compter. Je vous comprends très bien, dit Jean-Noël en dissimulant le mépris qu'il avait pour un homme qui parlait de fortune péniblement amassée. Pourtant, vous laissiez entendre tout à l'heure que l'industrie ne vous intéressait pas. C'est-à-dire, répondit Jean-Noël, sans voir où son interlocuteur voulait en venir, et simplement pour arranger les choses, que si je me marie, je trouverai tout naturel d'entrer dans les affaires. » Jean-Noël venait à peine de partir qu'Odile, souriante, demandait à son père ce qu'il pensait de son choix. Il évita de répondre pour ne pas faire de peine à sa fille. Elle insista. Il lui dit alors à brûle-pourpoint que Jean-Noël ne lui plaisait pas. Elle lui en demanda la raison. Il refusa de la lui donner. Au cours de la conversation qu'il venait d'avoir avec le jeune homme, à aucun moment il n'avait eu la plus petite sympathie pour celui-ci. Si le visage d'Odile s'assombrit alors, ce ne fut que pour un instant. Elle avait 26 ans. Comme les jeunes filles qui s'attardent dans leur famille, elle luttait sans cesse, non contre l'autorité de ses parents, mais contre son premier mouvement, qui était de se soumettre. Personne ne pourrait l'empêcher d'aimer Jean-Noël. « Cela ne veut pas dire que ce garçon ne changera pas, » dit M. Wurzel pour la consoler. Odile s'efforça par la suite de façonner Jean-Noël au goût de sa famille, ce qui était loin d'être facile. Il suffisait qu'elle lui demandât quelque chose pour qu'il fît le contraire. Il faut dire qu'il avait gardé de sa visite à M. Wurzel un mauvais souvenir. Il eut l'impression qu'on le considérait comme un intrigant, uniquement désireux de se marier par intérêt. Il était obligé de reconnaître que les apparences étaient contre lui. Pourtant, il avait le sentiment qu'il n'eût jamais songé à épouser Mademoiselle Wurzel si celle-ci ne l'y avait encouragé. Ce qu'on pouvait peut-être lui reprocher, c'était de se laisser influencer quand cela lui était profitable. Aussi se montrait-il de plus en plus ombrageux. Aux efforts d'Odile, après s'être assuré qu'il ne dépassait pas la mesure, il ne tarda pas à opposer son mépris absolu pour la famille Wurzel. Mais la jeune fille était la patience même. Elle rendait les soucis qu'avait Jean-Noël responsable de cette mauvaise humeur. Orgueilleux comme il l'était, ne devait-il pas souffrir de se trouver dans une situation si peu faite pour un jeune homme ayant reçu son éducation ? À la grande satisfaction d'Odile, M. Wurzel n'avait plus reparlé de Jean-Noël. Tout semblait devoir s'arranger lorsqu'un soir, comme il l'avait fait tant de fois il y avait quelques années, Maître Herbst téléphona à l'heure du dîner. « Je voudrais vous voir, Odile, le plus tôt possible. Pouvez-vous venir demain matin avant que je parte pour le palais ?» Mademoiselle Wurzel, malgré la présence de sa belle-mère, tâcha de savoir ce que l'avocat lui voulait. « Je ne peux rien vous dire par téléphone, » répondit-il. Puis, changeant de ton, reprenant celui qu'il avait eu au début de cet entretien, il ajouta « Présentez mes amitiés à tout le monde. Si Henri est là, dites-lui qu'il vienne me voir un jour. » Odile se demanda si elle devait prévenir Jean-Noël ou s'il était préférable de le laisser tout ignorer. Ce fut à cette dernière solution qu'elle s'arrêta. Il valait mieux, pensait-elle, faire toute seule ce qui pouvait être fait sans lui. Elle se rendit donc, non sans inquiétude, rue du Louvre. Que s'était-il passé ? Pourquoi Maître Herbst n'avait-il rien voulu lui dire par téléphone ? Elle avait hâte de le savoir, mais lorsqu'elle arriva, elle dut attendre plus d'une demi-heure avant d'être reçue. Finalement, une jeune femme la fit entrer dans le cabinet de l'avocat. Sans un sourire, sans un mot de bienvenue, il se leva, désigna de la main un siège à Odile. « Dans un instant, je suis à vous. J'ai tellement de travail, » dit-il en se replongeant dans un dossier. Peu après, il sonna sa secrétaire, lui confia une commission, donna un coup de téléphone. Enfin, une main sur le front, mais sans regarder la visiteuse, il reprit « Maintenant, je suis à vous, Odile. Voyons, de quoi s'agit-il déjà ? Ah oui, je me souviens. » Il se redressa, regarda derrière lui en tournant à peine la tête. « Je vous ai prié de venir. » commença-t-il sans préambule, afin de montrer à Odile que c'était l'avocat qui lui parlait, parce que j'ai reçu une lettre de ce monsieur Large, qui se dit le protecteur de l'épouse de votre ami, monsieur Ettlinger. Je vais vous la lire. En réponse à votre honoré du 13 mai, j'ai l'honneur de vous faire savoir que madame Ettlinger, préoccupée avant tout de l'avenir et du bonheur de son enfant, ne veut pas divorcer. Veuillez croire, monsieur, à ma parfaite considération. « Mais c'est épouvantable !» s'écria Odile. Maître Hertz eut un geste d'impuissance. Puis, après un silence, durant lequel il parut estimer que son rôle était terminé, il ajouta, satisfait sans doute de l'inquiétude qu'il avait donnée à Odile, « Mais, au reçu de cette lettre, j'ai pensé à vous. Ne sommes-nous pas de vieux amis ?»«
Oui, Adrien.
Vous m'en auriez voulu, n'est-ce pas, si à la première difficulté, je m'étais dérobé. J'ai écrit à M. Large. Je lui ai demandé d'avoir l'amabilité de passer me voir. Il est venu, et non sans lutte, j'ai pu obtenir ceci. Madame Ettlinger consentira à demander le divorce par mon intermédiaire, ce qui est, notez-le, très important, à la condition que son mari, c'est-à-dire votre ami M. Ettlinger, se laisse condamner à une pension mensuelle de 2 000 francs et qu'il lui rembourse une somme de 27 000 francs, représentant la dot qu'il aurait dilapidée. » À la façon dont Maître Hertz avait appuyé sur les conditions de Marguerite, Odile sentit qu'il avait du mépris pour l'homme dont la femme avait de telles exigences. « Puisque nous sommes à la merci de cette personne, le mieux est de trouver ses conditions raisonnables, n'est-ce pas ?» fit Odile.
« Cela vous regarde entièrement, » répondit l'avocat. « Je ne connais pas les ressources de M. Ettlinger. »«
Pour le moment, il n'en a aucune. »
« Vous dites vous-même, pour le moment, » continua Maître Hertz, énigmatique et distant, afin qu'Odile comprît qu'il ne voulait lui donner aucun conseil en dehors de ceux ayant trait au divorce lui-même.
« À ma place, vous accepteriez ces conditions, n'est-ce pas ?»«
Il ne faut pas me poser de questions, Odile. Vous devez savoir mieux que moi ce que vous avez à faire. »
La contrariété de Mademoiselle Wurzel était trop visible pour qu'elle échappât à Maître Hertz. Mais il ne faisait rien pour la dissiper. Encore aujourd'hui, alors qu'en s'adressant à lui dans une circonstance comme celle-ci, Odile lui montrait qu'elle ne l'avait jamais considéré autrement que comme un ami, il avait l'impression non seulement qu'il s'en était fallu d'un rien qu'il ne l'épousât, mais qu'elle regrettait qu'il ne l'eût pas fait. À midi, Odile alla chercher Jean-Noël à l'étude. Quand il connut les exigences de sa femme, il entra dans une grande colère. Qu'Odile eût été renseignée avant lui lui paraissait inadmissible. Que signifiaient ces conciliabules qu'on tenait dans son dos? Il eût appris que Mademoiselle Wurzel et Marguerite avaient eu plusieurs entrevues, qu'il n'en eût pas été autrement étonné.
Je suis venu vous dire également qu'il ne faut pas vous inquiéter, puisque ce sont les conditions de votre ex. C'est ainsi que Mademoiselle Wurzel appelait Marguerite. Nous n'avons qu'à nous incliner. Et dans 3 mois, ainsi que me l'a assuré Maître Hertz lui-même, tout sera terminé. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il va me falloir vendre des valeurs. Si mon père l'apprend, ce sera très grave.
Il y avait une autre chose qui ennuyait Odile. Jean-Noël habitait toujours rue Laugier. Était-il plus grande maladresse que d'aller au-devant d'un scandale certain? Car si les titres que Mademoiselle Wurzel possédait étaient nominatifs, son père en touchait les dividendes, avant que Jean-Noël fût séparé de Madame Mourier. Elle osa finalement dire au jeune homme que, puisqu'il fallait qu'il quittât cette femme, autant le faire tout de suite. Oh, ce n'était pas parce que les frais du divorce lui incombaient qu'elle demandait cela, mais pour que tout fût en règle, afin que, si sa famille apprenait qu'elle avait fait une opération bancaire, elle se trouvât en posture de se défendre. Jean-Noël, sans distinguer en quoi cette prudence le froissait, faillit répondre que si Odile n'avait pas confiance en lui, il était inutile de songer plus longtemps à se marier. Mais il se retint. Cela lui paraissait plus sage. Il craignait en effet que Madame Mourier, sous l'empire de la colère, n'allât trouver M. Wurzel.
« C'est pour cette raison, répondit Odile, que j'aurais voulu que nous disions tout de suite la vérité à mon père. Ne croyez-vous pas que cela serait préférable? Il vous comprendra, j'en suis certaine. De cette façon, Madame Mourier pourra agir comme il lui plaira. Il sera trop tard. Vous-même, d'autre part, vous vous sentirez dans une situation plus normale. Car, au fond, la cause de la mésentente qui règne entre mon père et vous provient surtout de cette situation que vous n'osez lui avouer et que peut-être il devine. »